7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain. Si vous êtes jeune diplômé ou un peu plus expérimenté, si vous avez un projet dans le domaine des services, de l'agroalimentaire, de l'énergie, mais ça peut être aussi dans le domaine culturel, social, c'est le moment de nous contacter pour dialoguer avec le coach. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel.
Didier Akwété qui est déjà en train de feuilleter les business plans qui nous sont parvenus, des porteurs de projets qui vont s'exprimer dans l'émission tout à l'heure. Vous êtes le directeur général d'Afrique Search, qui est une société de conseil en ressources humaines. Et donc chaque mois, vous êtes de passage dans le studio des 7 milliards de voisins pour écouter les auditeurs qui ont des idées pour le continent et qui ont même souvent commencé à monter leur entreprise, mais c'est vrai qu'ils sont freinés par de multiples difficultés. Aujourd'hui, les voisins, vous avez deux coachs pour le prix d'un. Bonjour Awa Mamoudou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes vous aussi chef d'entreprise, directrice générale de Focus Venture qui aide au développement et à l'investissement d'entreprises en Afrique de l'Ouest. Donc vous faites du conseil. Vos clients sont plutôt de grosses entreprises internationales qui veulent investir en Afrique.
C'est exactement ça. On accompagne également des entreprises africaines qui sont à la recherche de nouveaux débouchés pour leurs produits ou leurs services.
Voilà, trois consultantes, que des femmes hein, dans votre petite entreprise de conseil.
C'est ça.
Et vous êtes une entreprise qui a démarré il y a 4 ans maintenant, c'est ça ?
Exactement, on a démarré il y a 4 ans. Notre marché principal, c'est la Côte d'Ivoire, depuis lequel on opère et on intervient principalement sur les marchés d'Afrique de l'Ouest francophone.
Et vous êtes à Niamey, on peut le comprendre en entendant votre prénom et votre nom ou pas ?
On est à Niamey également.
Vous avez des origines nigériennes ?
Tout à fait, mes parents sont du Niger.
Très bien, alors vous restez avec nous, hein, vous allez dialoguer également avec nos auditeurs. De votre côté, les voisins, les voisines, il y a une règle très simple, c'est que vous devez être capable d'exposer de façon très synthétique votre projet. Et puis Didier, Awa, pas de langue de bois, vous nous dites ce que vous en pensez. C'est le rendez-vous des JPAG, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Et je vous donne le numéro de téléphone de notre standard. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi un numéro de téléphone WhatsApp. Mais vous savez aussi, c'est bien de vous envoyer un mail pour ce genre d'émission. Vous pouvez envoyer d'emblée un petit document qui résume votre entreprise si elle a démarré. Un business plan, ça s'appelle. Hein, 7milliards@rfi.fr.
7 milliards de voisins.
T'as un projet, t'as un business plan, alors viens en parler au coach.
JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne.
Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
Et on a deux patrons de l'Afrique qui gagnent dans le studio, Didier Akwété et Awa Mamoudou. Didier Akwété, vous revenez de Conakry, de Ouagadougou, salon de l'étudiant, salon de l'emploi. Juste brièvement, vos réflexions personnelles et vos coups de gueule. On aime bien les entendre toujours sur l'actualité.
Oui, c'est toujours utile, vous savez, ces salons de l'emploi, comme on en fait nous-mêmes dans certains pays. Et Conakry, je crois à peu près 30 000 élèves qui ont participé à ce forum de l'orientation, de l'information. Et globalement, c'est qu'il y a un vrai décalage entre le marché et la compréhension que les jeunes ont du marché et des formations. Et ça, c'est le plus inquiétant. Bon, le forum a le mérite d'exister, hein, grâce au ministre de l'Enseignement supérieur qui a fait un très très beau forum. Il y a vraiment lieu de remonter très tôt dans la chaîne, entre guillemets, d'éducation, pour expliquer aux jeunes les enjeux du marché, les emplois qui vont être pourvus, les métiers, et puis surtout la nécessité d'avoir un peu de culture générale. Les gamins manquent de culture générale, de culture de l'économie, et ne savent pas ce qu'est un marché de l'emploi. Donc il est indispensable réellement que dans nos systèmes éducatifs, on remette un peu de...
Bon, ça fait 20 ans, qu'on raconte, qu'on dit que les jeunes vont beaucoup trop dans les facs de philosophie, alors au lieu d'aller dans les facs de sciences.
C'est toujours le cas, plus de 70% vont vers les filières littéraires, philosophiques, etc., au détriment des sciences. Il y avait le ministre du Burkina, l'enseignement supérieur, qui nous disait par exemple qu'il y avait à peine 140 étudiants qui étaient dans les sciences au bac l'année dernière. Donc c'est vraiment une hémorragie qu'il faut arrêter.
Et une urgence.
Évidemment, parce qu'ils ne vont pas trouver de job. On a besoin, bien sûr, philosophes, de littéraires, de toutes ces disciplines, mais pas autant que ça. Il y en a beaucoup trop. Et donc, il faut réellement que le système éducatif se rénove et surtout qu'on trouve le moyen d'expliquer aux jeunes assez tôt les filières, le marché de l'emploi et surtout qu'ils entreprennent. Parce qu'il n'y aura pas de boulot pour tous ces jeunes. Et donc, même mettre dès l'école primaire un peu d'enseignement sur
c'était le coup de gueule de Didier Côté.
Oui,
on va entendre des gens qui ont des formations techniques. Mais oui, mais il faut des formations.
Mais,
vous avez raison.
Il en faut. Vous savez, pour faire tourner une usine, même un téléphone portable, il faut faire un peu de science.
Allez, 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone de notre standard, mais bien sûr si vous voulez avoir un peu plus de temps pour préparer votre projet avec notre équipe Sophia Bédard qui reçoit vos appels, vous nous envoyez aussi des mails à 7milliards@rfi.fr. Jessica est à Libreville, nous lui donnons la parole, jeune chef d'entreprise. Bonjour Jessica.
Oui, bonjour Emmanuel.
Jessica, vous avez 37 ans, vous êtes au départ scientifique, ingénieur spécialiste en procédés chimiques, diplômée au Canada, vous voyez Didier. Vous êtes rentrée ensuite au Gabon, embauchée par Total Gabon. Vous avez occupé des postes de direction technique pendant 9 ans. Vous avez travaillé sur des sites pétroliers offshore. Et vous avez quitté la multinationale il y a presque un an pour monter les petits pots de l'Ogoué, c'est dans d'un grand fleuve au Gabon. Qu'est-ce qu'il y a dans ces petits pots qui vous ont fait lâcher le pétrole, Jessica ?
Donc les petits pots de l'Ogoué, c'est une transformation qui valorise les produits agricoles du terroir africain. Et donc c'est une entreprise qui existe depuis bientôt 2 ans. Et donc notre produit phare, ce sont les confitures artisanales. Donc nos petits pots sont des petits pots de confiture. Ils sont faits à partir de fruits du terroir. Donc ananas, fruits de la passion, mangue, papaye. On a une collection de 11 saveurs.
Mmh. Mais attendez, comment on lâche le pétrole pour faire de la confiture ? Là, je ne comprends pas bien.
Bon, tout ça, ça se passe. La vérité, je suis tombée dans la bassine à confiture un peu par hasard, comme j'aime dire. De retour d'Asie, j'ai été expatriée en Asie pendant quelques années. J'ai un ami qui m'offre un cajot de mangue le jour de mon départ. Bon, j'adore les mangues, c'est très gourmand, évidemment. Et voilà, j'ai des mangues trop mûres, j'en fais des confitures. Et puis je tombe sur un ami qui les a mangées et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu en fais ?» Puis je dis « Bah, je les offre, je les mange. » Il me dit « Ah, je croyais que tu les vendais. » Et puis bon, ça trotte comme ça un peu dans ma tête. Un jour, je me lance, je décide de faire une exposition. Ça plaît beaucoup. Et puis petit à petit, ça grandit d'un pot, deux pots, 10 pots, 100 pots. Et puis bientôt, maintenant 12 000 pots.
Alors justement, aujourd'hui, 6 employés à temps plein, des journaliers, des commerciaux dans un atelier. Les confitures sont confectionnées donc à partir de produits locaux, distribués dans des supermarchés et bien sûr des stations-service. Vous écoulez combien de pots, à quel prix ?
Alors le prix de vente directe, c'est 5 000 francs CFA, des pots de 250 grammes.
Ça fait à peu près 7 € le pot. Hein.
Voilà, on est sur un segment haut de gamme épicerie.
Bah oui, ça c'est sûr.
Voilà, des produits à 75-80% fruits.
Très haut de gamme quand même. Et est-ce que les marques internationales vous concurrencent ?
Bon, localement, on n'a pas de concurrence sur notre segment. On a bien évidemment Petit Bonne Maman, Andros, qui ne sont pas sur les mêmes segments de marché.
Dans les supermarchés, vous vendez vos confitures. Vos clients, donc très très haut de gamme, pour acheter un pot de confiture à 7 € à Libreville ou à Port-Gentil, ça s'appelle un marché de niche, non Jessica ?
Oui, exactement, totalement, on est sur un marché de niche.
Quelles sont les grandes questions que vous vous posez presque 2 ans après la création de votre entreprise, Jessica, et avec qui vous les questions que vous souhaitez poser à Didier et puis bien sûr à Awa Mamoudou, deux coachs aujourd'hui, je l'ai dit, pour le prix d'un.
Donc aujourd'hui, donc après 1 an et demi de vente, puisqu'on a commencé à commercialiser fin 2017. Donc aujourd'hui, donc on a vendu environ 12 000 pots, on fait un chiffre d'affaires de 60 millions en 2017. Avec une rentabilité d'environ 5%. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le serpent un peu qui se mord la queue, dans le sens où on fait des petits volumes, donc forcément on a des coûts de revient très élevés, d'où le prix de vente à 7 €. Et on a du mal à sortir justement de ce cercle-là. Comment trouver la croissance en fait ? Comment pouvoir avoir le plus grand marché ? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même optimisé tout ce qui était coût des matières premières, coût des intrants. Et notre seul levier de croissance reste le volume. Mais comment trouver du volume quand on vend cher, donc peu de gens achètent ? Comment sortir de ce cercle vicieux-là, en fait ?
Très bien.
Et bien évidemment, il y a aussi, bon, si on trouve le volume, il y a le problème de l'investissement aussi. puisque les banques ont des taux d'intérêt beaucoup trop élevés. On est à 15%. Donc, nous, on ne peut pas se permettre de prendre des prêts bancaires. Il n'y a pas de business angel. Donc, comment lever des fonds aussi pour investir?
Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vous écoutent, à mon avis, qui vont se reconnaître hein, dans votre histoire, même si ce ne sont pas des pots de confiture. Didier Acouetté ?
Oui, non, mais bonjour Jessica. C'est vraiment un super projet. Le business plan est très bien fait. Et c'est vrai, je ne le dis pas toujours, mais vraiment, il est très bien fait. Alors, la question des marchés de niche. Soit vous êtes sur un marché un peu large et votre niche s'agrandit autant, ce qui n'est pas le cas parce qu'au Gabon, vous êtes sur un petit marché. Donc,
oui,
avec une niche qui est encore plus réduite. Ça, c'est le premier élément.
C'est pour ça qu'elle veut aller à l'étranger, dans la sous-région.
Alors, bien sûr, on peut aller dans la sous-région avec les contraintes qu'elle connaît. Le coût de l'exportation,
oui,
le coût d'attaque de ces nouveaux marchés, etc.
Voilà.
Mais pour répondre à la question de Jessica, je pense que, vous avez un filon, parce que j'ai vu le packaging, le concept est superbe. Si vous pouviez avoir une seconde gamme de produits, parce que ce produit un peu, pour l'instant, c'est votre produit star, comme on dit dans un portefeuille
Une sous-marque
produits.
Alors.
Non, même pas une sous-marque, une marque à un prix, disons, plus compétitif, qui permettrait de faire plus de volume et de générer des ressources pour soutenir votre produit star, qui aujourd'hui... Et c'est vrai, la référence de votre entreprise, reconnue par les consommateurs, j'ai vu les études conso que vous avez faites, les retours sont bons, les clients sont contents, sauf que c'est vrai, le ouais. prix est un peu élevé. Donc, si vous êtes sur un marché avec une population aussi faible, il y a un besoin probablement d'élargir la gamme de produits pour générer des ressources qui soutiennent votre produit star, qui s'adresse à un marché de niche. Et puis deuxièmement, votre stratégie export, effectivement, qui est une stratégie intéressante pour aller sur des marchés avec une population beaucoup plus large, mais offrant des marchés de niche un peu plus consistants, peut vous permettre effectivement d'augmenter assez rapidement votre chiffre d'affaires. Alors après, pour aller à l'export, et vous le soulignez un petit peu aussi, hein, directement dans vos questions, comment je fais ? Vous êtes sur un premier marché où déjà vous essayez de maîtriser en guillemets toute la chaîne de valeur de ce marché et le business.
Je vais juste vous arrêter deux minutes. Quand vous parlez de deuxième gamme de produits, vous voulez dire développer d'autres produits différents de la confiture ou faire une autre gamme moins chère de confiture ?
Une autre gamme de confiture moins chère. Comme
donc
ça,
soit avec, du packaging moins cher, soit
non,
avec...
Non, que vous pouvez appeler autrement.
Le problème, c'est que ce n'est pas le packaging qui pèse. Le problème, ce n'est pas le packaging.
Ce
n'est pas les intrants. C'est vraiment amortir les charges fixes dans le volume.
Alors, vous voyez, les charges fixes, comme on le fait dans... Et vous savez, dans beaucoup d'entreprises, vous avez une chaîne de production qui vous permet de produire aujourd'hui la confiture haut de gamme. Avec plus de fruits, des intrants de qualité. Avec cette même machine, vous pouvez faire une confiture avec un peu moins de fruits, avec des intrants, je ne vais pas dire de moins de qualité, mais qui vous reviennent moins cher.
L'agroalimentaire classique.
Exactement. C'est-à-dire que vous êtes dans un modèle assez classique où vous essayez de compenser, en guillemets, les faibles volumes de votre produit star aujourd'hui, mais que vous vendez en petit volume, avec un marché de plus grande consommation, avec des intrants un peu qui vous reviennent moins chers, mais que vous pouvez faire du volume, mais que vous pouvez appeler différemment. C'est juste constituer votre portefeuille produit un peu différemment. Mais pour finir,
un autre segment,
sur l'export, c'est difficile de répliquer le même modèle sur tous les marchés, alors que vous n'avez pas encore toute la capacité qu'il faut pour déjà couvrir ce premier marché. Si vous arrivez à trouver des partenaires qui fabriquent des produits agroalimentaires comme la confiture, qui ont des chaînes de prod, qui ont déjà en fait la logistique, c'est simplement de leur vendre entre guillemets la marque sous forme de franchise ou de partenariat, pour arriver à étendre le volume sur ces nouveaux marchés.
Alors Awa Mamoudou, vous qui conseillez des entreprises qui veulent exporter soit à l'intérieur du continent africain ou qui veulent s'installer sur le continent africain, qu'est-ce que vous pensez du projet de Jessica ?
Bonjour Jessica, alors effectivement je rejoins Didier, le projet est vraiment très intéressant et je pense que c'est une bonne initiative de valoriser les produits du terroir local. Après, effectivement, la problématique à laquelle vous êtes confronté, qui est liée au fait que votre marché est tout petit et qu'à l'intérieur du marché, vous avez visé un segment de niche, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous augmentez le prix par produit Et donc, au risque
alors,
de...
Alors, vu qu'on est déjà à 7 euros,
tout à fait.
On est mal parti, là.
Et si vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes obligé d'élargir votre niche. Et une niche sur un marché tout petit n'est pas extensible. Donc, effectivement, vous allez être confronté au besoin d'aller chercher une clientèle similaire à celle à laquelle vous vous adressez au Gabon, dans d'autres pays. Vous l'avez souligné tout à l'heure, ce n'est pas forcément évident d'aller sur le continent pour plein de raisons. Ça va demander de l'investissement, ça va demander... ça va demander l'identification des bons marchés. Et donc la problématique principale que moi je vois, aujourd'hui vous êtes sur un produit de niche, ça va poser des problématiques en matière de gestion de vos intrants. Je ne sais pas aujourd'hui dans quelle mesure, si vous vous développez sur un gros marché comme le Nigeria ou un marché comme le Ghana, où votre niche sera forcément plus grande que celle que vous avez au Gabon, vous arriverez à sécuriser vos intrants et à faire en sorte que ça n'ait pas un impact négatif sur le coût des facteurs de production.
On y arrivera puisqu'on est quand même dans un espace CEMAC, donc même si les matières premières sur le terroir gabonais ne suffisent pas. On a l'espace CEMAC qui est là, on a le Cameroun. Donc je pense, en termes de matières premières, on trouvera les volumes.
Vous vendez beaucoup, alors pas seulement à un client final, à classe moyenne, très aisée, hein, parce que je le redis, 7 euros le pot de confiture, même en France, je ne connais pas beaucoup de gens qui investissent autant dans un pot de confiture, mais vous investissez, vous vendez à des hôtels, et là aussi, vous vous heurtez à un problème auprès des grandes chaînes de type Accor, Radisson, etc. Vous avez du mal à vous implanter dans ces chaînes d'hôtels?
Oui, parce que vu que c'est des chaînes, il y a des standards, donc dont souvent ils ne peuvent pas dévier. Donc c'est souvent cette problématique-là de comment intégrer des grandes chaînes qui sont internationales et qui ont déjà des standards et qui ont déjà des produits standardisés et qui n'ont pas forcément la flexibilité d'accepter des produits locaux ou des produits différents de leurs standards.
Oui, non, Jessica, sur ce point-là, il y a beaucoup d'évolutions. Hein. Beaucoup de ces grosses entreprises, dans le cadre de leur politique justement de, entre guillemets, RSE, du contenu local et du consommé local, essaient justement d'intégrer des fournisseurs, des petits fournisseurs locaux, comme vous, dans les hôtels, et même sur les compagnies aériennes. Si vous prenez certaines compagnies aériennes aujourd'hui qui desservent l'Afrique depuis l'Europe, vous avez des petits pots de confiture, des petits pots de piment, etc., qui sont fabriqués localement, ou même dans les stations des sens que vous connaissez si bien, qui ont des rayons contenus local, produits locaux.
C'est déjà là, donc, d'ailleurs, donc, que vous écoulez vos produits, hein, dans les stations-service,
entre autres. Oui, on distribue,
Donc, clairement, je pense que c'est une niche que vous devez creuser, et puis surtout aussi revoir la taille de vos bocaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, je crois que vous avez un seul format, c'est exactement. Allez aussi sur des plus petits formats. Vous voyez comment on en trouve dans
les... On a des 250 grammes et des 30 grammes, les petits formats comme les hôtels.
Mais ça, c'est pour les hôtels, mais entre les deux, entre 30 grammes et 250.
Non, mais sur ces petits formats, vous avez aussi beaucoup de débouchés potentiels. Si vous pouvez arriver à négocier un partenariat avec une compagnie aérienne ou justement un groupe hôtelier, dans le cadre de leur politique local content et RSE, vous pouvez vous faire référencer, à mon avis, assez rapidement, parce que de ce que j'ai vu, les produits ont l'air des produits de qualité. Pour finir, il y avait la question d'investissement. Est-ce que vous êtes prête à ouvrir votre capital?
Oui.
Bon, parfait. Donc, si vous êtes prête à ouvrir votre capital, dans la stratégie d'exportation, si vous visez un marché comme le Cameroun, qui est un marché potentiel, ou la Côte d'Ivoire, vous pouvez absolument faire un tour de table dans lequel vous invitez ces nouveaux partenaires à rentrer dans le tour de table pour renforcer l'existant aujourd'hui sur votre business. Et si vous allez vers des fonds de garantie qui viennent en garantie, peut même vous garantir le capital. Et du coup, j'ai vu que les premiers résultats sont assez encourageants. Ils peuvent même venir en garantie des nouveaux financements que vous allez demander, parce que 15%, effectivement, quand j'ai vu dans le document, vous pouvez
taux
pas
d'intérêt demandé avec, par les banques. Avec voilà. 15%, allez-vous développer avec ça. Un petit message pour les banques. Jessica,
donc rapprochez-vous
de bon courage. En tout cas,
des fonds de garantie.
Vous avez deux coachs ultra enthousiastes. Hein. Je ne pensais pas que ça allait déclencher un tel enthousiasme. Merci à vous, Jessica.
Du courage, merci Jessica.
Bon courage. La route est longue, mais très belle. 33 1 84 22 71 71. Et puis, c'est aussi notre mail. 7milliards@rfi.fr, vous envoyez directement un petit business plan bien ficelé, vous passez dans l'émission, soit aujourd'hui, soit le mois prochain.
C'est
ça vous plaît, Didier? C'est Vaudou Game, Naturel Vaudou, groupe formé en France.
Tu nous as vu danser dans le studio, évidemment.
Il est togolais. Ils sont très, très bons. On aime beaucoup. Merci pour le choix musical. Romain Dubrac, qui se demande...
Il est bon, ce Romain Dubrac. Voilà, hein, il swing dans le studio, d'ailleurs.
7 milliards de voisins. La parole est à ceux qui veulent entreprendre. Jeune patron de l'Afrique qui gagne et qui dialogue avec deux coachs aujourd'hui. Didier Akouété, évidemment. Et Awa Mamoudou, jeune chef d'entreprise qui fait du conseil pour les entreprises qui veulent investir en Afrique ou s'étendre sur le reste du continent si elles sont déjà installées en Afrique. On donne la parole maintenant à un jeune qui est à Lomé, 27 ans. Bonjour Maoupé, pardon.
Bonjour.
Maoupé, vous êtes diplômé d'un BTS à Lomé, à l'Institut africain d'administration et d'études commerciales au Togo. Vous êtes informaticien de formation et votre projet est un projet très technologique, ça s'appelle Fortech. Ce sont des solutions technologique pour l'accès à l'eau dans les milieux ruraux à partir de forages. Vous avez lancé ça il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, en périphérie de Lomé. Je voudrais que déjà que vous nous expliquiez exactement comment fonctionne le service que vous êtes en train de commercialiser.
Ok, alors lorsqu'un client désire s'approvisionner en eau, il sera à la pompe, avec sa bassine évidemment, ou un bidon.
Oui.
Et le propriétaire du forage lui ouvre le robinet. Donc après qu'il soit servi, il paie au propriétaire. Et du coup, ce qui fait qu'en absence du propriétaire, le forage reste bloqué. Donc situation que moi-même j'ai eu à vivre, que je vis quand je reviens vers 19h. Oui. C'est aussi embêtant de frapper au portail du propriétaire.
Oui, ça c'est clair. Quand on a besoin d'eau pour faire la cuisine ou la vaisselle. Oui.
Oui. Alors qu'avec notre système qui, intégré au forage, permet au client de prépayer sa consommation. Donc, il reçoit au premier abonnement un code qui lui permet de s'approvisionner en eau à toute heure de la journée grâce à un clavier intégré au système.
C'est-à-dire un boîtier électronique qui est sur la pompe, sur le forage. Le client arrive, il compose son code. Vu qu'il est abonné, comme pour un téléphone, on a déjà des unités de téléphone dans son téléphone. Là, il compose et le robinet coule, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit.
C'est alimenté par un système solaire.
Alors, est-ce que c'est alimenté par un système solaire, demande Didier. Vous pouvez lui parler directement à Maoupé.
Nous avons deux kits. Il y a un kit qui est alimenté par solaire et l'autre qui est à énergie électrique.
Vous facturez quoi et à qui dans l'histoire, Maoupé?
En fait, nos clients, nos cibles, c'est les propriétaires de forage. Et c'est à eux nous vendons. Nous effectuons une vente directe. Et à chaque fin du mois, nous avons 10% du chiffre d'affaires du propriétaire.
C'est-à-dire vous prenez 10% sur le volume d'eau vendu par le propriétaire du forage et vous facturez l'installation technique du boîtier électronique.
À chaque... Oui.
C'est ça. Vous avez déjà fait des phases de tests qui ont été en zone rurale?
Oui, nous avons fait des tests qui sont concluants et le propriétaire de forage a apprécié, ainsi que les clients qui nous appellent pour nous féliciter. Et on reçoit des coupes de fil des techniciens qui font des forages aux propriétaires, qui nous sollicitent, qu'ils vont travailler avec nous. Des jours à venir.
Pour l'instant, vous êtes tout petit, vous avez 8 clients propriétaires de forage dans la région de Lomé, au nord, et puis je crois qu'il y en a un qui s'annonce au Bénin. D'où vos questions à Didier Akouété. Donc, on vous écoute. Question à Didier et à Awa Mamoudou.
Ok. Ma première question, c'est de savoir comment anticiper la pérennisation de l'entreprise, étant donné que nous ouvrions maintenant sur fonds propres et organiser un lever de fonds. Donc, la deuxième question, c'est comment renforcer les capacités.
Fonds propres, vous avez mis 850 000 francs CFA, c'est ça?
Oui,
hein,
oui, oui.
Vous
oui,
et votre petite ça. Équipe, donc 1200 euros, hein, ce n'est pas une grosse mise de fonds.
Oui.
D'accord.
Donc, la deuxième question, c'est comment renforcer les capacités de mes personnels pour l'évolution de mon entreprise, étant donné que nous sommes des jeunes, nous n'avons pas autant de connaissances, mais bon, ce que nous avons mis à la disposition.
Ouais, dans l'équipe, il y a des techniciens comme vous, il y a aussi un jeune qui connaît mieux le marketing, mais vous ne vous sentez pas assez bien armé pour pérenniser la petite entreprise qui semble prometteuse,
justement.
Mais qui pour l'instant est un peu à la peine. Qu'est-ce que vous en pensez, là, les coachs Awa?
Alors moi, j'ai un élément de conseils et puis une question par rapport à l'évolution du financement. Donc aujourd'hui, vous êtes sur fonds propres. Ce serait peut-être intéressant de vous rapprocher de personnes qui ont pour objectif également, d'un point de vue étatique ou para-étatique, la favorisation de l'accès à l'eau en zone rurale, de manière à ce qu'ils puissent porter la croissance de votre activité, faire en sorte que un maximum de puits dans les zones où les systèmes d'accès à l'eau potable traditionnelle ne sont pas complètement développés puissent s'armer de votre, en tout cas se doter de votre produit. Donc je pense que c'est important de ne pas négliger le côté partenariat public privé.
Parce que pour l'instant, sur cette technologie, vous êtes parmi les premiers au Togo. Je sais qu'il y a des boîtiers de ce type qui... J'ai vu ça ailleurs, hein, j'ai vu ça à Niamey, qui déclenchent des arrosages automatiques, notamment dans des exploitations agricoles, par exemple. Mais au Togo
Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Nous sommes les seuls, nous n'avons pas de concurrents concernant nos produits.
Ouais. Et en même temps, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer. Avec juste un tout petit bassin de clients, vous n'avez pas assez d'argent pour continuer à équiper les nouveaux clients qui arrivent.
Justement.
Alors comment vous faites les boîtiers, vous les fabriquez vous-même?
Oui, nous les fabriquons avec les matériels qui sont sur le terrain. Donc nous les payons et puis essayer de...
Des composants électroniques que vous importez?
Oui, il y a le reste que nous importons. Donc,
D'accord. Et aujourd'hui, vous n'avez que 8 clients. Déjà 8 clients.
Oui, nous n'avons plus 8 clients.
D'accord.
Avec un retour favorable, ils sont contents? Parce qu'ils arrivent à écouler de l'eau, y compris quand ils ne sont pas derrière leur forage.
C'est le satisfait qui donne du positif, qui nous font et qui nous donne le courage de persévérer, de continuer dans les recherches et essayer d'évoluer avec l'entreprise.
C'est une belle innovation, c'est une très bonne idée hein, que vous avez. En fait, vous êtes exactement dans le modèle des systèmes d'installation électrique. Par exemple, en Afrique de l'Est, où on vous met donc un petit compteur avec une carte prépayée et vous avez un petit débit électrique qui vous permet d'avoir deux ampoules, de brancher un téléphone. Donc, c'est vraiment un système décentralisé d'accès à l'eau. Le problème que vous, enfin, de l'électricité, le problème que vous allez avoir si vous restez dans ce modèle, c'est que vous allez être dépendant de ceux qui ont des petits forages et qui voudront bien accepter d'acheter votre solution.
Oui.
Ma suggestion, c'est d'aller un cran plus haut. Ce que disait Awa, c'est que vous devez trouver des partenaires, soit des grosses ONG, où j'ai vu que vous étiez en discussion avec l'État, ou des bailleurs de fonds, dont la mission est de faciliter l'accès à l'eau. Et dans ce partenariat, vous devez pouvoir faire des forages, et dans le cas de ce forage, intégrer votre solution. Donc vous montez un cran dans le marché. Sinon, si vous êtes dépendant de ceux qui ont des forages, qui n'ont pas forcément besoin de votre modèle pour vivre de leur activité et en plus pour leur prélever un subside, vous pouvez avoir une vraie difficulté à croître beaucoup plus vite que vous ne l'espérez en réalité.
Vous êtes déjà rapproché des ONG ou pas, Maoupé?
Oui, on s'est déjà rapproché des ONG qui nous ont donné un retour favorable dans les jours à venir.
Très bien, donc il faut accentuer ce positionnement. Donc, de trouver des partenaires dont la mission est de faciliter l'accès à l'eau et justement d'intégrer votre solution. Donc vous bénéficiez, eux, entre guillemets, de leur force de frappe et donc d'un projet, d'un vrai projet développement dans lequel vous vous insérez. Alors si vous avez eu un peu de ressources, parce que ça aussi, vous pourrez tout à fait, dans le cadre donc des politiques d'accès à l'eau des populations, imaginez d'intégrer un ingénieur avec vous, enfin, ou d'autres jeunes, qui peuvent faire des forages. Donc vous venez avec une solution intégrée où on va vous sous-traiter en réalité l'installation des forages avec votre système de distribution. Et puis un autre volet, c'est que vous créez de l'emploi. C'est-à-dire si vous venez avec cette solution en disant, il y a par exemple sur le territoire togolais ou ailleurs tant de points d'eau qu'on peut créer pour faciliter l'accès des populations à l'eau, et que nous pouvons créer 5 000, 10 000, 15 000 ou 20 000 emplois jeunes, vous allez voir que l'État ou même des bailleurs institutionnels pourraient tout à fait soutenir votre projet, et donc on lancerait un programme de formation de jeunes qui créerait donc des emplois permettant, eux, d'installer des forages, parce qu'ensuite, il faut un minimum de maintenance, un minimum de relevé. Donc, vous avez du coup un programme d'accès à l'emploi jeune et d'accès à l'eau des populations qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'eau. Donc, vous devez faire un modèle un peu plus intégré qui vous permettra de croître plus vite et de bénéficier, de capter des financements publics, parce qu'il y en a beaucoup qui aident justement les populations à avoir accès à l'eau.
Ah ouais, Mamoudou, vous voyez aussi grand que Didier à côté.
Oui, je rebondis là-dessus. Il faut vraiment ne pas négliger l'aspect réglementaire et les relations avec l'État, parce que l'accès à l'eau potable, c'est un des objectifs et un des devoirs des gouvernements. Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, hors Togo, il y a des structures qui dépendent du gouvernement, qui sont en charge de favoriser l'accès à l'eau potable en zone rurale. Se rapprocher d'elles est important, d'autant plus que d'un point de vue réglementaire, vendre de l'eau, ça reste quand même une activité qui relève de l'autorité de l'État. Donc ce serait bien de pouvoir avoir des liens forts avec eux dès le début. Et puis, la qualité de l'eau aussi est un réel enjeu pour les États au niveau de leur population. Et donc, avoir votre solution permettrait, dans une certaine mesure, de rationaliser l'accès à l'eau potable en zone rurale et puis d'intégrer de nouvelles actions, notamment les tests microbiologiques sur l'eau, etc.
C'est vraiment un secteur, en tout cas, qui se transforme très vite aujourd'hui dans les relations entre ceux qui fournissent de l'eau, les consommateurs. Merci Maoupé d'avoir été en ligne avec nous. Bonne chance.
Merci, hein.
Il faut persévérer. Les coachs y croient, ça s'appelle Fortec, solution technologique pour l'accès à l'eau dans les milieux ruraux à partir de forage et surtout le fameux petit boîtier électronique,
ah bah,
abonnement,
qui est une belle invention,
avec de l'eau en prépayé, exactement.
Savez,
merci
c'est
à vous.
C'est dans les objectifs de développement du millénaire, hein, l'accès à l'eau et justement le fait d'insérer son projet dans un cadre plus global va lui donner plus de possibilités de développement.
On poursuit avec un autre projet. Vous pouvez bien sûr nous contacter pendant l'émission. Si vous aussi, vous avez envie de dialoguer avec les coachs, 33 1 84 22 71 71, nous envoyez un mail à 7milliards@rfi.fr.
7 milliards le voisin.
Ouais, 7 milliards le voisin.
Tout le monde est voisin.
Nous accueillons Brahim, 32 ans, qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Brahim.
Bonjour.
Brahim, vous avez un Master 1 en projet de développement local à l'Institut supérieur de développement local de Dakar. Vous travaillez actuellement dans l'énergie, dans le secteur privé. Alors, votre projet est très intéressant, mais vous avez l'honnêteté de dire que c'est un projet post-embryonnaire. J'aime bien l'humour. C'est encore sur le papier. Vous avez fait des tests, des pilotes qui sont concluants, mais on ne peut pas dire que l'entreprise est démarrée. Ça s'appelle Simule Entreprise pour former des jeunes via des stages virtuels. Alors, quand on connaît la galère des jeunes sur le continent africain pour obtenir un stage dans une entreprise, et ensuite les entreprises qui se plaignent qu'ils ont recruté un jeune qui ne sait rien faire, on comprend à quoi pourrait servir un produit comme Simule Entreprise. Comment ça fonctionne? C'est un système de scénario avec des rôles, avec plusieurs niveaux de difficultés. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Voilà, c'est exactement ça. Au fait, si on n'a pas l'accès à avoir un emploi, parce que là, tout à l'heure, c'était l'accès à l'eau. Là, maintenant, c'est l'accès à l'emploi. Pour avoir l'accès à l'emploi, pourquoi ne pas produire, au fait, une entreprise virtuelle où on pourrait participer à sa gestion, on pourrait participer à sa vie sans jamais avoir été dans une entreprise réelle.
Oui.
C'est à l'image, par exemple, du pilote d'avion.
Mmh, tout à fait.
Il est d'abord dans les bancs de l'université. Il apprend tout ce qui est du pilotage. Mais avant de partir dans un vrai avion, c'est d'aller dans un simulateur de vol. À cette image-là, pourquoi ne pas créer un simulateur d'entreprise? Comme maintenant, nous avons la crise économique au Tchad et un peu partout en Afrique.
Oui.
C'est avoir, au fait, l'accès à des stages qui sont, on va dire, virtuels pour s'aguerrir et apprendre des choses où on ne les apprend pas forcément à l'école.
Oui, des choses
très
pratiques.
Dans les universités.
Alors, là, vous avez déjà effectué 2 sessions pilotes en novembre dernier avec 9 jeunes. Il y avait une entreprise donc virtuelle de confection de chaussures et une entreprise une carrière de gravier, hein, avec des niveaux de difficulté différents. C'est-à-dire qu'on entraîne les jeunes, ça peut être à remplir un bon de commande, à rédiger une facture, ça c'est vraiment pour les tout premiers niveaux. Et puis, il y a des niveaux beaucoup plus difficiles.
Il y a des niveaux beaucoup plus difficiles. Voilà, exactement. Le but, au fait, c'est que quelle que soit votre formation de base, que vous soyez scientifique ou agronome ou autre, c'est que vous créez une entreprise virtuelle ou imaginaire et vous allez donner un rôle à cette entreprise et la faire vivre. La faire vivre à travers plusieurs niveaux. Donc, comme vous l'avez bien dit, le premier niveau, vous êtes assimilé à un demandeur d'emploi et une personne qui vient d'être recruté. Alors, ce qui se passe généralement, si on peut résumer, vous créez votre entreprise virtuelle, qui est par exemple la confection de chaussures. Vous allez ensuite faire une réunion pour définir cette entreprise. Donc, vous apprenez les bases d'une réunion, comment donner la parole aux gens, comment avoir un ordre du jour, etc. Et ensuite, vous allez jouer le rôle d'un demandeur d'emploi. Alors, vous allez écrire un CV, vous allez écrire une demande...
Ouais. Vous faites aussi des tours de table pour des investisseurs, par exemple, des petits scénarios amusants autour de ça?
Bien sûr, c'est des petits scénarios. Par exemple, le scénario du demandeur d'emploi, il est vraiment adapté à nos jeunes, c'est-à-dire vous demandez l'emploi à une entreprise et vous allez même subir tout le parcours d'embauche, même une simulation d'interview.
Ouais. Et alors, bien sûr, dans l'histoire, toutes ces simulations, dans ces jeux de rôle, dans ces scénarios, il y a des vrais formateurs qui sont eux-mêmes employés bien dans sûr, des entreprises et qui coachent les jeunes, hein, c'est bien cela.
Et qui coachent les
jeunes.
Qui
peuvent jouer le rôle d'un client, par exemple.
Exactement. Le rôle d'un client, ça peut aussi être le rôle tout simplement d'un partenaire qui peut vous appeler de l'étranger, qui aimerait connaître le Tchad et venir investir. Et une question piège que généralement nos chefs d'entreprise tombent, c'est quel est le bon hôtel pour nous recevoir en N'Djamena, pour voir votre état de préparation. Et c'est des choses beaucoup plus pratiques que ce qu'on peut apprendre, par exemple, aux universités. Mais c'est quelque chose de complémentaire à ce qui est fait dans les universités de l'école. C'est
bien
pas
sûr.
Du tout
et alors,
compétitif.
À l'heure actuelle, pourquoi vous ne parvenez pas à dépasser... Alors là, vous avez fait ces phases tests avec des jeunes qui ont été assez enthousiastes. Pourquoi vous ne parvenez pas à démarrer?
Sincèrement, je pense que c'est un problème beaucoup plus de crédibilité en ce qui concerne les infrastructures. Ça faudrait être honnête, parce que quand on projette ce projet-là, c'est d'avoir au fait des infrastructures d'entreprise, des bureaux avec des salles de réunion, etc., pour vraiment simuler la vie d'une entreprise réelle. Et quand on n'a pas ces infrastructures-là, c'est déjà une première, on va dire, déception, je vais utiliser le mot, de la part des participants. Et la deuxième chose, c'est vraiment la crédibilité de la certification qui va venir après ça. Les questions, c'est est-ce que après ça, j'aurai forcément un emploi ou bien est-ce que cette formation sera reconnue par les entreprises pour que j'ai accès à un emploi? C'est souvent ça. Parce que les gens sont prêts à passer dans les universités classiques, mais pas, par exemple, dans ce genre de format.
D'où vos questions au coach. Donc, comment rendre la formation crédible et puis quelle stratégie de communication? Parce que vous avez du mal aussi, pour l'instant, vous allez sur les réseaux sociaux, mais vous avez peu de participants qui s'inscrivent. Qu'est-ce que vous en pensez, les coachs?
Bonjour, Brahim.
Awa Mamoudou.
Alors moi j'ai regardé un peu le business plan et le projet. Je trouve que l'idée de former les jeunes à être prêts à travailler en entreprise est excellente. Après, je ne suis pas tout à fait convaincue par le fait de virtualiser le monde de l'entreprise, parce que par définition, entreprendre, c'est faire, et c'est faire pour de vrai.
Ah oui, mais attendez, il n'y en a pas. Ils ne trouvent pas de stage, les jeunes, ils ne trouvent pas de débouché.
Alors, je suis complètement d'accord, et peut-être que l'une des raisons pour lesquelles le business model ou le business tel qu'il est pensé n'aboutit pas, c'est qu'il est complètement, à mon avis, il est partiel. C'est-à-dire que Brahim a essayé de créer une passerelle entre le monde de la formation professionnelle et le monde de l'entreprise, sauf que si on n'associe pas le monde de l'entreprise à cette passerelle-là, ça ne peut pas fonctionner. C'est bien d'avoir un coach qui nous forme, mais est-ce que ce sur quoi on forme correspond à ce que l'entreprise veut? Et ensuite, est-ce qu'on est capable de former pour quelque chose de concret? C'est-à-dire, est-ce que très en amont, dans le modèle, on s'est assuré que les entreprises avaient un besoin spécifique et on a formé par rapport à ce besoin? Est-ce que finalement, au lieu d'aller investir dans des locaux qui vont servir de studio, entre guillemets, de cinéma, c'est pas plus intéressant de mettre ces personnes-là directement en formation dans l'entreprise?
De donc, demander une salle à une entreprise.
Tout à fait. Je pense
finalement
que le lien avec le secteur privé est peut-être pas complètement abouti. Et je pense aussi que si ces jeunes suivent un cursus qui est un cursus, entre guillemets, de virtualisation, comme vous l'avez dit, c'est peut-être plus intéressant de réfléchir à un modèle comme une junior entreprise où on a plein de jeunes qui sont formés, etc., qui sont en train de monter en compétences, qui se préparent à entrer dans les entreprises, qui peuvent faire du conseil sur des projets. Tout à l'heure, vous parliez de projets d'implantation au Tchad. Pourquoi pas les faire travailler sur quelque chose de complètement concret? Mais le parallèle avec le pilote d'avion et le cockpit virtuel, moi, personnellement, je n'achète pas.
Non, mais Awa a tout à fait raison. En fait, c'est vraiment le bout qui manque à votre projet. Ce que vous devrez faire, c'est vous rapprocher des entreprises tchadiennes, recenser leurs besoins, un peu comme on fait, et donner l'exemple des juniors entreprises, pour que ces jeunes travaillent en réalité sur des cas concrets d'entreprise. Et en fait, c'est pas à vous de créer les espaces d'accueil des jeunes. Non, non, non. C'est l'entreprise qui accueillera ces jeunes de manière périodique pour faire les rendus, pour discuter avec le directeur des opérations, le DRH, le directeur commercial, sur la problématique sur lesquelles ces jeunes ont travaillé, avec les outils que vous leur mettez à disposition.
En fait, quel est l'intérêt de l'entreprise? Ça va lui faire perdre du temps.
Pas du tout. Non,
elle
n'a
pas envie de s'investir.
Non, justement, les PME, justement, ont tellement de problématiques, mais n'ont pas en interne les ressources pour adresser ces problématiques. Donc, le fait que des jeunes puissent travailler sur ces problématiques et à rendre compte aux dirigeants, surtout les PME.
Avec Brahim qui supervise comme
avec
coach.
Ses coachs, avec
pour
ses
pas que ça soit trop lourd à gérer pour l'entreprise.
Avec ses coachs, justement, ça apporte une réponse concrète aux entreprises. C'est-à-dire que 90% de notre secteur privé, c'est des toutes petites entreprises et des PME qui n'ont pas les moyens de faire ce que Brahim propose aux étudiants de faire. Bon,
et Brahim,
ça
vous
pas,
y aviez
ça
pensé, ça,
parfait.
À vous approcher des petites PME qui elles-mêmes galèrent.
C'est le dénominateur de son projet, en fait.
Brahim ?
Voilà, voilà. En fait, pour répondre à ce manque-là, c'était au fait de s'inspirer des scénarios qui se passent vraiment. Et je l'ai bien mis dans le business plan, dans la partie conditions de réussite du projet, c'est-à-dire la grosse collaboration avec les PME locales.
Et pour l'instant, est-ce que vous vous êtes rapproché de ces PME? Est-ce que vous avez essayé de voir comment vous pourriez travailler avec elles?
Oui, pour l'instant, il y a eu deux PME, plus celle dans laquelle j'ai eu à travailler, qui m'ont fourni un scénario, et des scénarios complètement, parfois un peu simples. C'est par exemple, ne serait-ce que si on est consultant, comment se présenter, éviter certains pièges.
Ouais. Mais là, les coachs, vraiment... attendez, vous ne parlez pas seulement de que les entreprises vous fournissent en scénario, hein, Awa.
Moi, j'ai une question, Brahim. Comment vous rémunérez?
Oui.
Qui paye la formation? C'est le jeune ou qui prend en charge les frais?
Oui, c'est les jeunes qui...
D'accord, alors vous voyez que même à ce niveau-là, vous êtes face à une population jeune qui ne travaille pas, qui cherche à s'en sortir, c'est peut-être pas le bon axe. Ce serait peut-être intéressant d'explorer ce que font pas mal de start-up aujourd'hui sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest, et au Nigeria. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont très en amont rencontrer les PME en leur disant quels sont vos besoins, quels sont les besoins aujourd'hui que vous n'arrivez pas à satisfaire parce que c'est trop coûteux d'un point de vue RH, etc. Nous, on s'engage à trouver des jeunes à les filtrer, donc un peu comme ce que ferait un cabinet comme celui de Didier, à identifier les profils et ensuite à les former sur la base de votre besoin. Et c'est l'entreprise qui prend en charge la formation.
Et c'est donc l'entreprise qui devient le client de Brahim.
Tout à fait. Et du coup, l'entreprise achète une compétence et achète, entre guillemets, une collaboration avec un jeune qui va être complètement formé et mis dans un cadre, dans un moule, pour pouvoir répondre à ses attentes au bout de 2-3 mois.
Bon, bah, faut aller chercher l'argent où il y en a, quoi.
Oui,
donc,
non, mais puis même en complément de ce modèle, si vous voulez, si vous arrivez à créer un simulateur, en guillemets, c'est même pas forcément de création d'entreprise, mais de résolution de problèmes pratiques d'entreprise, les écoles intégreraient cela dans le cursus des jeunes. Ça veut dire que lorsqu'on demande à un jeune de payer 100 000 francs par an, il va payer peut-être 120 000 francs, mais les 20 000 francs, c'est ce fameux projet que vous appelez Simule Entreprise, qui permet justement aux jeunes d'être mis en relation avec une PME dans le cadre d'un projet, du coup d'être coaché et de bénéficier de vos outils. Donc les écoles deviennent vos partenaires et qui prennent en charge une partie du financement dont vous avez besoin pour rémunérer votre service. Donc ça devient une composante à part entière du processus de formation des jeunes.
Brahim, on est obligé d'arrêter là.
Et les écoles.
Je pense que les coachs vous ont donné beaucoup, beaucoup de pistes. Le projet est intéressant, la copie est à revoir. J'espère que vous avez pris des notes.
Oui. Donc voilà, la dernière débouchée qu'il pourrait avoir, c'est au fait simuler les problèmes d'entreprise. Au lieu qu'ils se jettent dans des projets, ils pourraient passer par ces simulations-là pour éviter tous les risques financiers.
Merci beaucoup Brahim, en tout cas, vous nous tenez au courant, on vous redonnera la parole, j'espère, si l'entreprise voit le jour réellement et pas en simulation. Très bonne journée, N'Djamena, au Tchad, les coachs, Awa Mamoudou, Didier Akwete, 3 projets, lequel sera le jeune patron de l'Afrique qui gagne demain?
Grande question.
Petits pots de confiture, les boîtiers électroniques pour les forages d'eau, les simulations d'entreprise.
Alors moi, je pense que à des niveaux différents, les 3 ont beaucoup, beaucoup de potentiel. Simule entreprise, parce qu'on a vraiment besoin de former les jeunes et tout dépendra de la manière dont Brahim revoit sa copie, comme vous l'avez dit. Les petits pots, pareil, il faut qu'elle réfléchisse un petit peu mieux à son marché, parce que je pense qu'en l'état, ça va être compliqué. Et vraiment, au niveau de l'eau, là, je mettrais peut-être cette entreprise en premier, parce que ça répond à un réel enjeu global et de société, et que si on associe les États et la force publique, clairement, c'est quelque chose qui peut devenir exponentiel.
Coach à côté.
Non, effectivement, les gros besoins sont vers l'entrepreneuriat social. Et le projet d'eau s'insère parfaitement dans ce cadre-là. Et beaucoup de jeunes vont dans cette direction aujourd'hui, parce que en fait, l'environnement au quotidien, c'est ce qui vous donne en fait des idées de création d'entreprise. Et on ne l'a pas fait assez. M-Pesa au Kenya, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que le taux de bancarisation était très faible, que ça a été créé, que ça répond à un vrai besoin. Et donc ça, c'est l'avenir des jeunes Africains à réfléchir aux problèmes locaux, des réponses locales qu'on peut exporter ensuite et qui donnent des jobs à plein de jeunes.
Et pour revenir à votre coup de gueule du début de l'émission, avec des formations scientifiques, jeunes.
Il faut plus de formations scientifiques.
Merci
clairement.
À tous les deux, Awa Mamoudou et à Didier à côté. Awa, vous revenez quand vous voulez.
Merci Emmanuel.
Bon vent pour votre entreprise qui a maintenant 4 ans du conseil aux entreprises qui investissent en Afrique. Redites-moi le nom de l'entreprise.
Focus Ventures.
Focus Ventures, basé à Abidjan, à Niamey et également à Paris aussi.
À Paris également, ouais.
Merci en tout cas à vous d'être passé chez 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe. Sophia Béda, Romain Dubrac, Didier Cherouz. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'émission sur l'appli RFI Pure Radio. Demain, Charlie Dupio vous propose de réagir sur la famille. Cette famille de la solidarité, mais qui peut aussi nous faire du mal. À demain, les 7 milliards.